21h passée de quelques secondes sur Radion. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Wagon Livre, votre émission littéraire. Ce soir, j'ai un grand plaisir à accueillir un écrivain. Et normalement, on a toujours un écrivain devant le micro de Wagon Livre. D'autant plus heureux qu'il est ancré depuis quelque temps dans Lyon. Il vit à Vézelay et c'est Jean-Pierre Canet qui va nous accompagner jusqu'à 22h. Jean-Pierre Canet, bonsoir.
Bonsoir.
Alors Jean-Pierre Canet, vous avez fait paraître au printemps de cette année 2017 un nouveau roman aux éditions La Renverse intitulé « Des noces rêvées ne meurent pas ». On va en parler bien sûr tout au long de notre échange. Quelques petits éléments biographiques que je glisse à nos auditeurs. Breton d'origine, né à Quimper en 1955.
Absolument.
Désormais durablement établi à Vézelay.
Oui, je pense.
Pendant longtemps, vous naviguiez pour les obligations artistiques et professionnelles entre Paris, Vézelay. Maintenant, votre cœur est attaché à Vézelay.
Je suis effectivement vézelien de cœur depuis en fait assez longtemps maintenant, je dirais plus d'une vingtaine d'années. C'est un repère, Vézelay. Ça reste pour moi un lieu de haute conscience. C'est un lieu qui réveille et qui révèle peut-être.
Qui stimule.
Qui est un lieu difficile parce qu'il est très chargé, mais c'est un lieu fort qui a la beauté, vous savez, de ces lieux qui ne donnent pas envie de vacances de l'esprit. Il y a des endroits magnifiques. On a envie d'y partir en vacances, d'y séjourner. Vézelay, ce ne sont pas des vacances. C'est un lieu qui est un lieu pour moi de travail.
Jean-Pierre Canet, vous êtes aussi auteur de poésie, très souvent préfacé par Bernard Noël, s'il vous plaît. Vous êtes auteur de romans. Ce soir, on va parler donc des Noces rêvées ne meurent pas. Mais il y a eu, en 1993, chez Gallimard, Les Vents coudés. Et puis en 1998, chez Julliard, Saint-Ploc, Le Gitan. Auteur de nouvelles, moi je vous ai découvert à travers le recueil de nouvelles Le Grand Labeur, qui avait été publié par la maison Rhubarbe. Alors, clin d'œil là encore à Lyon, mais Rhubarbe a... j'allais dire maintenant une dimension hexagonale, voire internationale, car je sais qu'il y a des Belges qui ont été édités chez Rhubarbe, maison d'édition créée par Alain Kéves en 2004. Et vous avez d'ailleurs, Jean-Pierre Canet, obtenu le prix Bocas de la Nouvelle en 2014. Et j'ai plaisir tout de même à rappeler que le prix Bocas est un des trois prestigieux prix récompensant un recueil de nouvelles chaque année.
Oui, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. Je dois saluer d'ailleurs cette jeune maison d'édition, Rhubarbe, Alain Kéves, vous dites Kéves. Alain a publié de grands novellistes comme Claude Pujadreneau, comme Christiane Baroche, comme d'autres.
La papesse de la nouvelle, comme on l'appelait à une époque.
On l'appelait comme ça, c'est une amie Christiane, je la connais bien.
Château-Renaud,
Georges Olivier, bien sûr, les grands noms, les noms
Michel
prestigieux.
Michel Ost
qui a eu le
Goncourt.
Goncourt,
effectivement. Oui.
Oui, absolument. Et donc, oui, ce recueil, ça a été une très belle surprise. C'est un recueil assez âpre, des nouvelles parfois très courtes, et j'ai été très très heureux de recevoir ce prix Bocas de la Nouvelle.
Je vous ai découvert effectivement dans un premier temps à travers ses écrits, Le Grand Labeur, toujours disponible en librairie aux éditions Rhubarbe, des nouvelles déconcertantes, troublantes, choquantes parfois.
Je ne sais pas. Pour moi, il n'y a pas vraiment d'histoire choquante ou pudique ou des histoires tristes ou joyeuses. Ce qui m'importe, moi, c'est l'intensité. C'est tout ce qui compte. Donc, je ne sais pas quelle est l'humeur de ce que j'écris. Ce que je sais, c'est que moi, j'y mets toujours. Autrement, les choses n'auraient pas de sens. Le meilleur de moi-même est que je travaille énormément. Je suis excessivement laborieux. Hein, et à la fois, dans dans ce travail, il y a toujours la nécessité de garder quelque chose du premier jet, quelque chose du premier brouillon, quelque chose d'un peu hirsute, d'un peu, barbare. Et à la fois, il faut construire. Il faut apposer les murs de la maison, mais savoir aussi de temps en temps jeter un pavé dans les carreaux pour pas que la maison soit trop belle, trop nette, trop polie. et trop polissé. Et donc, voilà comment est-ce que je m'emploie à l'écriture et comment je me suis employé, notamment à écrire ce recueil. Je dois vous dire d'ailleurs à propos de nouvelles que c'est un peu à l'origine de mon parcours d'auteur. C'est un peu la genèse de mes rencontres. J'ai effectivement, au tout début de ma carrière littéraire, participé à un comité de lecture, celui de Nouvelles. Et j'ai eu la chance de travailler avec Daniel Zimmermann, qui n'est plus là aujourd'hui, avec Claude Pujadrenaud, qui a eu le prix Goncourt des lycéens il y a quelques années et qui avait préfacé mon premier bouquin, mais aussi avec Pierre Lepape du Monde, avec Michel Gazier de Télérama et encore d'autres, Monsieur Apruse et d'autres gens. Et pour moi, ça a été très, très formateur. Et je continue à avoir la nécessité sur les choses de la vie et les choses de la création de tenter d'apposer des grilles critiques sur les choses. C'est-à-dire que j'interviens beaucoup d'ailleurs dans des écoles et je dis toujours aux enfants et aux adultes également, dire j'aime bien ou dire je n'aime pas, ça n'a aucun sens. Ce qui est intéressant, c'est de dire pourquoi on aime et pourquoi on n'aime pas. Et essayer de construire son sens critique. Et donc moi, je viens vraiment de là. Ça a été mon école.
Alors je reviens sur un terme que vous avez utilisé, Jean-Pierre Canet, c'est le terme d'intensité. Et je ne serais pas complet si je ne mentionnais pas que vous êtes homme de théâtre, auteur de théâtre, à la fois parfois pour le jeune public, mais aussi pour les adultes. Et l'intensité du texte qui prend chair, qui prend corps, j'imagine que pour vous, ça a du sens.
Bien sûr. Bien sûr, ce qui prend sens pour moi, c'est que l'écrit soit de la chair, c'est-à-dire que l'écriture s'incarne. Moi, ce qui m'intéresse dans l'écriture, c'est la vie des autres, c'est la vie des gens. Moi, je m'intéresse très peu à moi-même. Et les gens, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont froid, qu'ils ont peur, qu'ils sont amoureux. Et donc, il s'agit bien d'incarnation. Et je suis effectivement auteur de théâtre, oui. Et je suis venu à l'écriture dramaturgique avec un certain bonheur, grâce à une équipe qui est basée dans le Loiret, à Beaugency. Et je trouvais assez extraordinaire d'être présent dans les salles sombres de théâtre lors de premières, sentir l'émotion d'une salle, ce que l'écriture évidemment de romans et de nouvelles ou de nouvelles ne permet pas.
En tapant Jean-Pierre Canet sur un moteur de recherche sur Internet, on découvre des petites interviews filmées de Jean-Pierre Canet, mais aussi des extraits de certaines de vos pièces de théâtre jouées. Des extraits très brefs, mais qui permettent de rentrer dans votre univers. Et par exemple, une de vos pièces a pour titre « Little Boy, la passion ». Et je crois que c'est Christophe Rouxel qui, devant la caméra, dit que c'est une première mondiale, qu'il est le premier à avoir fait jouer cette pièce. Et il assure à la pièce une carrière internationale et il dit... Avec certitude, il y croit dur comme fer que cette pièce, dont je rappelle le titre, Little Boy, la passion, sera adaptée au cinéma. C'est flatteur, ça fait plaisir.
C'est très gentil.
Mais est-ce que le cinéma doit s'emparer d'une pièce de théâtre pour avoir toute sa grandeur ?
Très gentil de la part de M. Rouxel. C'est une pièce qui va être reprise l'année prochaine, en 2018, par une compagnie suisse. Little Boy, c'est le nom de la bombe atomique qui est tombé sur Hiroshima. Et si vous me permettez, en quelques mots, l'histoire, c'est l'histoire de ce choc terrible, de cette première bombe atomique lâchée sur le Japon à la fin de la guerre. Et dans cette pièce, je raconte la vision d'un des soldats américains dans l'avion. Et l'avion vole au-dessus de la ville japonaise. C'est l'aube. La ville d'Hiroshima se réveille. Et mon personnage principal, que j'ai appelé George Kane, se penche au hublot. Et là, juste avant le largage de la bombe atomique, il regarde. Il regarde. Et que voit-il ? Il voit la ville, effectivement, qui se réveille, mais plus précisément, son regard est attiré par les yeux d'une jeune fille, une jeune japonaise, une jeune femme. Et Little Boy, La Passion, cette pièce de théâtre, raconte leur histoire d'amour entre lui tout en haut, dans son avion bombardier, et elle tout en bas, sur la terre d'Hiroshima.
Petit rappel donc autour de cette pièce de théâtre. Jean-Pierre Canet, on va marquer un premier temps de pause musicale à bord de Wagon Livre. Je rappelle que vous êtes notre invité pour votre dernier roman aux éditions La Renverse, qui a pour titre « Des noces rêvées ne meurent pas ». D'ailleurs, votre éditeur écrit que dans une langue toujours renouvelée et créatrice de beauté, Jean-Pierre Canet s'empare des grandes questions de ce monde, la guerre, l'amour, l'exil et la fraternité. C'est Wagon Livre, nous sommes ensemble jusqu'à 22h, on se retrouve dans une poignée de minutes.
Yeah. Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Des noces rêvées ne meurent pas. C'est le titre du dernier roman de notre invité Jean-Pierre Canet qui est avec nous jusqu'à 22h sur Radion. Des noces rêvées ne meurent pas, c'est un roman magique. Je l'ai lu deux fois. Une première fois, j'allais dire gratuitement, et puis une deuxième fois en prenant des notes pour créer l'architecture de l'échange que j'engage avec vous, Jean-Pierre Canet. C'est tout à fait intemporel, et c'est souvent le cas d'ailleurs. Je l'avais remarqué dans Le Grand Labeur, dans les nouvelles du Grand Labeur. Bien sûr, il y a des références à la modernité, il y a des avions, il y a des voitures, il y a un tracteur, mais c'est toujours très, très indéfini, très flou. L'époque ne vous semble pas essentielle. C'est plus les liens entre les personnages, les relations qu'ils entretiennent entre eux, qui semblent dominer l'intérêt que vous portez au texte et à l'histoire que vous racontez.
L'époque. Et le personnage central est un homme aguerri, on dira, édifié par l'existence, qui est en quête d'une femme qui s'appelle Rosemonde et il est en déshérence.
Lui, il s'appelle Chapital.
Il la cherche, absolument. Alors, je reviens à l'époque. L'époque, ce sont les générations. C'est-à-dire que Chapital est un monsieur d'un âge certain, ou d'un certain âge, on ne sait pas bien. Mais il va rencontrer des jeunes gens, des très jeunes gens. Une jeune fille et deux jeunes gens. Donc, si vous voulez, l'époque, elle est là. Elle est dans le constat générationnel. C'est ce temps-là qui compte, c'est ce temps dans ce roman-là. Mais voyez-vous, Yannick, je travaille actuellement sur un roman et là, le temps compte davantage. Je suis en train de travailler sur un livre. On est pendant la guerre d'Algérie, on est pendant l'appel de l'abbé Pierre. Donc je ne suis absolument pas insensible au fait, de l'information qui nous abreuve un peu tous les jours. Au contraire, j'y suis infiniment sensible et peut-être que j'ai besoin, parce que je suis issu d'une famille de gens qui et je pense à mes parents, mais à mon frère aîné qui était journaliste politique, je suis issu d'une famille qui est complètement en prise avec l'information, avec l'actualité. Et il est vrai que dans ce roman-là, je pense que j'ai choisi, c'est vraiment un parti pris que j'ai essayé de tenir du début jusqu'à la fin, j'ai choisi de dire la temporalité autrement, par ces relations intergénérationnelles.
Alors, le roman s'ouvre sur l'arrivée de votre héros, Chapital, qui arrive dans un village qui ressemble un peu à celui de Vézelay, notamment lorsque de l'église... Vous écrivez qu'elle est une lourde femelle de pierre accroupie, toute en hanches. Et en plus, il gravit, il monte la rue principale du village. C'est pas Vézelay. Pourtant, la question des habitants, quand ils voient arriver cet homme qui pourrait être un pèlerin, un gueux, disent « vient-il d'Avalon ?» La ville d'Avalon est mentionnée, mais pas Vézelay.
Absolument.
Vézelay vous a donné le cadre de l'arrivée de Chapital.
C'est important, effectivement, de situer le. Là, nous parlions de la temporalité. Là, on va parler des lieux, des sphères dans lesquelles se déroule le roman. Nous sommes effectivement en Bourgogne, dans un village qui a quelques analogies, quelques proximités sans doute avec la colline de Vézelay, mais aussi au bord du canal du Nivernais. Je cite également Lyon. La commune, effectivement, la ville, pardon, d'Avalon est également mentionnée. Il y a donc sur ce plan-là une attache, je dirais, terrienne, un ancrage terrien très, très, très tangible, très réel.
Le ciel est très important aussi. Il y a une fascination du ciel chez Jean-Pierre Canet.
Oui, Oui, je suis. Écoutez, je trouve que le ciel a quelque chose d'abord d'assez extraordinaire, c'est que nous le partageons tous.
Encore faut-il lever la tête, parce que trop de gens regardent leurs pieds dans
la
rue.
Oui, c'est difficile pour marcher finalement de regarder trop ses pieds, mais c'est formidable ce ciel. Et nous sommes égaux là, pour une fois que nous sommes égaux. S'il pleut, vous rendez-vous compte que tout le monde est mouillé, et s'il fait beau, tout le monde a chaud. Et donc il y a un grand partage du ciel. Et moi je suis très sensible, oui, bien sûr. Je suis très sensible au ciel également, parce que pour moi le ciel c'est... Je vous rappeliez tout à l'heure que je viens de Bretagne, que je suis né à Quimper, qui est la patrie de Marc Jacob. Moi, j'aime le ciel qui change. J'aime ce mouvement-là. Je suis très inquiet, figurez-vous, quand le bleu domine absolument tout. J'ai une sorte d'angoisse que je partage avec un poète, d'ailleurs, qui s'appelle Norge, qui avec cette anxiété du bleu. J'ai une sœur qui vit à Athènes et moi je ne pourrais pas parce que le bleu tout ripolliné m'effraie un peu. J'ai besoin du mouvement du ciel comme j'ai besoin du mouvement de la vie.
Il y a peut-être un intertexte au tout début de votre roman, Jean-Pierre Canet, c'est que Chapital arrive donc dans ce village qui est sur une colline et qui ressemble effectivement étrangement à Vézelay. Et notre nomade, puisque finalement il a un mode de vie devenu itinérant, il a quitté apparemment le rang, il était professeur, vraisemblablement c'est ce qu'on apprend, et il est devenu l'homme des bois, et il est recueilli par le prêtre du village. Et ça m'a fait penser un peu à l'arrivée de Jean Valjean, qui est accueilli par Monseigneur Myriel. Il y a cette solidarité, cet accueil d'un homme de Dieu qui accueille celui qui erre.
Oui.
C'était pas... Non,
merci, pas... merci pour la référence qui m'honore, bien sûr. Chapital arrive effectivement dans ce village avec une église montée tout en haut de la colline, ce qui effectivement peut évoquer la colline de Vézelay. Il est en... sorte de fugue, je parlais de déshérence tout à l'heure, il cherche une femme, la femme qu'il a aimée, et il ne sait plus où la trouver. Et il va être hébergé, pris en charge, par le petit curé du village, qui est un...
Le père Casuel.
Le père Casuel, oui, qui est un homme droit, qui est un homme sincère dans sa foi, qui est un homme gentil. J'emploie exprès d'ailleurs ce mot de gentil,
au sens étymologique.
Si vous voulez, mais même au sens d'aujourd'hui, si vous voulez. Moi je suis extrêmement sensible à la gentillesse, qui pour moi est la principale des qualités, et qui est tant décriée.
Alors ça dépend ce qu'on place derrière la gentillesse, parce que ça peut être aussi un signe de faiblesse, la gentillesse.
Mais moi j'aime bien la gentillesse faible. Je prends toutes les gentillesses. C'est formidable d'être gentil. Et je trouve que c'est la plus noble qualité humaine. Et donc il est hébergé par ce curé de campagne qui lui propose tout simplement de séjourner, de dormir dans la sacristie. Et c'est là que Chapital va passer ses premières nuits alors qu'il arrive au village.
Alors c'est un homme, Chapital, c'est un homme blessé qui cherche à se guérir de quelque chose. Effectivement, il est à la recherche de Rosemonde. Il est même parfois presque suicidaire. À un moment, il échappe de peu à un incendie. Il est sauvé d'ailleurs grâce à une vache, à une scène absolument magnifique, où la vache l'aide à traverser la rivière pour le mettre à l'abri de l'incendie. C'est aussi l'incendie. Il y en a beaucoup des incendies dans les pages de vos écrits, Jean-Pierre Canet.
Peut-être.
Et à un moment, Chapital se dit « Oh, si seulement, par désespoir, il dit « Si seulement j'avais pu périr dans l'incendie. » Et il a cette formule extraordinaire « Maintenant, la vie est à inventer. » La vie est à inventer. Alors Rimbaud voulait changer la vie. Et je trouve, je dirais, Jean-Pierre Canet, avec Jean-Pierre Canet, « La vie est à inventer. » Et c'est un message d'espoir pour nous toutes et tous.
Bien sûr.
Que inventer la vie, sa vie.
Bien sûr que la vie est à inventer tous les matins.
Ne pas la subir, mais justement la prendre en main, la modeler comme vous modelez la langue.
Bien sûr.
Et on va revenir justement sur la langue. Parce que Chapital, il a ce point commun avec vous, c'est qu'il maîtrise bien la langue. Il connaît bien la France. on suppose qu'il a beaucoup voyagé, qu'il a beaucoup erré. Il aime beaucoup la langue, il l'utilise. Et d'ailleurs, Chapital dit de la langue que c'est une pâte que l'on travaille au palais. Et je sais que vous êtes attaché à cette image matérielle, gourmande, charnue et charnelle de la langue.
Comment, lorsqu'on écrit, ne pas aimer ce matériau extraordinaire ? Voyez-vous, quand je suis à l'étranger, j'aime beaucoup voyager. Le français me manque très vite. J'ai parfois des griefs à faire à notre belle nation de France, mais la langue est extraordinaire. Et c'est vrai que la travailler à la gouge, la travailler, comment dire, à la fois... Comment vous expliquer ça ? La travailler au plus proche de soi. On me demande parfois qu'est-ce que ça veut dire bien écrire. Ça ne veut rien dire. Est-ce que c'est Proust qui écrit bien ? Est-ce que c'est Kafka ? Ou est-ce que c'est Joyce ? On n'en sait rien. Ils écrivent tous bien. Quand on s'essaie à l'écriture, je pense que ce qui compte, et c'est pour moi la chose primordiale, c'est d'être sûr que ce qu'on fait est à soi, que ça vaut ce que ça vaut, mais là, en face de ses yeux, on a les mots qui sont des mots extrêmement privés, extrêmement personnels. Et je crois d'ailleurs que pour parler aux autres, pour essayer de communiquer avec autrui, il ne faut pas essayer de leur ressembler. La démagogie ne fonctionne pas. Je pense que c'est en étant dans sa singularité qu'on peut être dans le partage.
Alors c'est vrai que la langue, c'est ce vecteur formidable que vous, écrivains, mais pourquoi pas aussi les hommes de radio et chacun au quotidien peut utiliser pour articuler les pensées, et notamment chez vous, dans votre œuvre, Jean-Pierre Canet, les pensées les plus profondes, les fantasmes, les choses oniriques, le réel, l'ultra-réel, quand on peut... Enfin, c'est très difficile de rendre compte de l'ultra-réel, me semble-t-il, par le biais de l'écriture. Et puis parfois aussi, ce que vous appelez, vous, les accidents. Alors, c'est les accidents de la langue ou les accidents de la vie ? Parce que l'accident de la langue peut être intéressant aussi.
Maintenant, ce que vous venez de dire est tout à fait essentiel pour moi. C'est-à-dire Le matériau de l'écriture, effectivement, c'est tout ça. Tout ça et encore autre chose. Vous évoquez les fantasmes, vous évoquez le monde onirique, c'est-à-dire les rêves, vous évoquez la pseudo-réalité, vous évoquez l'hyper-réalité. Moi, je m'interroge beaucoup, d'ailleurs, à savoir ce que ça veut dire le réel. De quel réel parle-t-on ? De quelque chose qui serait objectif, qui serait tangible, c'est quoi le réel ? C'est les informations à la télé ? C'est quoi ? Moi, je n'ai pas la télé, alors je suis mal placé pour en parler. C'est quoi ? Le panier de la ménagère ? Il faut consommer ? Ça signifierait qu'on serait tous identiques ? Moi, je ne crois absolument pas que nous ayons les mêmes besoins les uns des autres. Je n'y crois jamais. Et donc... Moi, si vous voulez, ce qui est important, c'est la subjectivité de chacun. Mes personnages ont des visions subjectives. L'objectivité est un gros mot, est une grossièreté, est un leurre. Regardez, par exemple, nous sommes ce soir, j'ai le plaisir d'être interrogé par vous, Yannick. Nous ne voyons pas cette salle d'enregistrement de la même manière. Tout dépend de ce que nous avons fait l'heure précédente et on sait déjà ce qu'on fera après. Nous en avons la conscience. Regardez aussi quand, je ne sais pas, vous êtes fatigué, vous prenez la route. Dans les phares de la voiture, vous voyez la route et vous avez presque l'impression de rouler par-dessus les arbres, comme c'est curieux. On parlait tout à l'heure en privé de peinture, de soutine, de l'expressionnisme. Bien sûr qu'on voit, certes, avec les yeux, mais comme dit... c'est pas Prévert, c'est comment s'appelle-t-il ? Je cherche son nom. On voit avec le cœur, le Petit Prince,
oui,
pardon.
Saint-Exupéry.
Saint-Ex, bien sûr, Saint-Ex. On voit avec le cœur. Une idée très simple. Quel que soit le lieu dans lequel vous vivez, un appartement, une maison, peu importe, une caravane, dans une cabine de camion.
Une roulotte.
Une roulotte, peu importe. Si vous êtes heureux, si vous avez fait précisément ce que vous vouliez, si vous êtes amoureux, si le temps qu'il fait vous convient, le lieu dans lequel vous vivez est un palais, c'est un royaume, mais précisément le même endroit. Si vous êtes triste, s'il y a eu des problèmes dans la famille, s'il y a les huissiers qui vous pourchassent, si votre chien s'est enfui et qu'il n'est pas rentré, s'il y a une tristesse qui s'empare de vous, le même lieu qui était un palais ou un château devient un véritable taudis. C'est ça la subjectivité, et moi je ne crois qu'en ça.
Jean-Pierre Canet, on marque un nouvel intermède musical. C'est Wagon Livre sur Radio. Nous sommes ensemble avec donc le romancier Jean-Pierre Canet pour Des noces rêvées ne meurent pas, disponible aux éditions La Renverse. On se retrouve dans une première.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Nous sommes toujours avec notre invité Jean-Pierre Canet pour son dernier roman intitulé « Des noces rêvées ne meurent pas ». Disponible en librairie aux éditions La Renverse. On a parlé du personnage principal, Chapital, recueilli par ce prêtre un certain temps dans la sacristie. Et Jean-Pierre Canet, vous allez nous lire un passage où Chapital se rend au marché du village, un marché dynamique où la foule est omniprésente.
Il y en a du monde et des bêtes, des singes qui se grattent les aisselles et montrent leur derrière, des permissionnaires en goguette, des filles qui vont à deux ou trois en se donnant le bras. Il se ferait un passage, demande si on n'a pas vu la robe à fleurs et le bijou au front. On hausse les épaules, on lui répond qu'elles se ressemblent toutes ces petites-là. Un forain l'aurait peut-être aperçu du côté des manèges, mais sur place, pas l'ombre de la petite bohémienne. Ça repart pour un tour et rouler, rouler, chevaux de bois. C'est la fête. La frite est dans tous ses états et dans les haut-parleurs, l'accordéon joue musette, on rit, on boit. Le soleil montre les jambes des filles, au stand de tir, les gars chassent le carton, on suce un berlingot, on gagne du mousseux, des bons d'achat ou une queue de renard à la loterie. La fête saoule, une odeur prend qui rendrait malade, une odeur de fauve. Chapital s'éponge le front, la petite est introuvable. Mais ses paroles continuent de lui marteler les tempes.
Merci Jean-Pierre Canet. Un extrait des Noces rêvées ne meurt pas, votre dernier roman. Alors, votre personnage principal, Chapital, à un moment va quitter ce village où il se sentait bien, où il était d'ailleurs centre d'attraction. Et il arrive dans une auberge qui s'appelle Les Vents Coudés. Les Vents Coudés, c'est le titre d'un roman que vous avez fait paraître il y a quelques années. Et là, il rencontre un père et sa fille. Le père, c'est Magalu. Alors, il passe son temps à cuisiner pour les clients. Il mange toujours tout ce qu'il a cuisiné pour les clients. Il dit d'ailleurs, je mange pour oublier. Et puis, Isabelle, sa jeune fille, qui a un appareil dentaire. D'ailleurs, vous dites que son appareillage aux dents, ces petits grillages qui remontent sur les gencives et empêchent les adolescents de devenir des lapins. Il y a toujours aussi une petite note humoristique.
Oui, bien
sûr. En dépit de la gravité, il y a toujours une petite bosse comme ça, drôlatique, dans le texte.
Oui, bien sûr.
Ce n'est pas plane.
Oui, bien sûr, parce que dans l'existence, je crois que Sally se marie, le tragique parfois, et le cocasse. J'évoquais pas plus tard que ce midi des obsèques de mon oncle qui était médecin, qui est parti au Mexique, qui est mort là-bas. Et lors de l'enterrement, quand j'ai vu mon cousin, son fils, on a éclaté de rire. Alors bien sûr, c'était une tension nerveuse.
C'est malvenu de faire
ça. C'est très malvenu, mais c'est très bien aussi que ce soit malvenu. Tant mieux, soyons malvenus et commettons des actes et des gestes malvenus lorsque ça ne choque pas évidemment autrui. Et c'était simplement une tension nerveuse. Et oui, bien sûr que le cocasse se mêle à l'existence dans ses duretés parfois.
Le projet de Chapital qui arrive entre ce cuisinier et sa fille, il a une idée extraordinaire. On a dit qu'il aimait la France, il l'a apparemment beaucoup parcouru, il aime la langue, tout comme vous, et puis il aime le chant. Il aime le chant des hommes. Et il aime aussi les bruits de la campagne. Parce que le roman que vous avez écrit est un roman qui est aussi un hymne à la campagne, il y a un éloge de la nature. La pomme, les arbres, les oiseaux, les animaux, tout ce qui nous environne. Or, on a récemment entendu ces histoires, là encore, cocasses qui nous font bondir, ces néo-ruraux qui s'installent à la campagne et qui déposent plainte parce que le coq du village oui. les réveille le matin ou parce que les certains chemins sont pleins de bouses de vaches ou que les troupeaux passent sur les routes. Quel regard vous portez, vous, sur ces néo-ruraux pénibles qui n'acceptent pas
Us
et coutumes de la campagne rustique française?
Je voudrais qu'il y ait un grand plan Marshall de défense du monde rural.
On n'en prend pas le chemin, en tout cas.
Je voudrais qu'on trouve quelqu'un à la gare de Sermizel pour prendre un billet de train. Je voudrais que les postes rouvrent. Je voudrais qu'il y ait des enfants dans les écoles. Je voudrais que la vie soit foisonnante dans la campagne. Vézelay, par exemple, était une commune très, très peuplée. Et aujourd'hui, c'est devenu un haut lieu touristique, mais ça, c'est, moi, je souhaiterais qu'il y ait des charcuteries, une station essence, que ça vive, qu'on rit, qu'on chante. Vous me parliez du chant, je pensais à un monsieur qui s'appelle Jacques Bertin, qui est un chanteur, un interprète, qui dit dans une chanson « Rien n'est plus beau que le chant des hommes ». C'est vrai que c'est ce qui nous unit, c'est vrai que c'est ce qui nous rassemble. Être ensemble, le cœur soulevé, à essayer d'interpréter quelque chose en commun, qu'est-ce qu'il y a au fond de plus, je dirais, de plus, dans l'idée de communauté humaine, de plus chaleureux, de plus beau ?
Ben, le chant, c'est aussi... Alors c'est pareil, le chant, je pense au mot latin, le carmen, qui est le chant des poètes, étymologiquement, et qui est envoûtant, qui ensorcelle.
Oui.
Et c'est ce que Chapital veut un peu donner, puisque, en fin de compte, pour lui, l'idée, c'est de chanter les cloches. Il faut que vous expliquiez quand même ça. C'est terriblement original quand même.
Alors il faut peut-être...
Il faut expliquer, Jean-Pierre Canet, de Chapital.
Oui, je pense que là, il faut s'arrêter un instant pour que les auditeurs ne soient pas trop perdus. L'idée de Chapital provient d'une lecture sur une gazette locale. Et la gazette locale évoque le fait qu'il y a certaines églises qui sont privées de leurs cloches parce que les cloches sont usées, parce qu'elles sont fêlées, parce qu'elles sont hors d'usage. Et ce monsieur Chapital, donc le personnage principal, le protagoniste essentiel du roman, a l'idée de rassembler des gens pour chanter dans les églises, pour remplacer, je dis bien pour remplacer, les cloches d'église hors d'usage. Et donc vont se rassembler autour de la personnalité de Chapital d'autres personnages.
Et puis il sait ce qu'il veut, parce que lui-même, il va passer une annonce dans la Gazette des Clochers.
Absolument.
Pour demander à des candidats de venir chanter les cloches avec lui. Et il y a bien marqué « emploi itinérant ».
Emploi itinérant.
Il s'agit d'aller dans les églises de Bourgogne, donc de remplacer les cloches aux enterrements, aux mariages.
Absolument.
En faisant quoi ? Ding-dong, ding-dong-dong ?
En chantant, en remplaçant les cloches. Je dois vous dire d'ailleurs que l'idée m'est venue il y a assez longtemps en voyant des cloches posées au sol, des cloches d'église. C'est très étrange. Une cloche, ce n'est pas fait pour être au sol. C'est un peu comme un arbre quand il est tombé, quand il y a eu une tempête. Moi, je me souviens de la grande tempête, c'était en 2000, je crois, il me semble. Et je me souviens en Bretagne des arbres qui étaient par terre et de quelqu'un de ma famille qui m'avait dit « Mais qu'est-ce que c'est grand, un arbre ? C'est pas possible que ce soit au sol, ce corps-là mourant de l'arbre. » Une cloche, c'est pareil. C'est fait pour résonner, c'est fait pour teinter, c'est fait pour traverser les campagnes environnantes. Et donc, je crois que l'idée m'est venue ainsi, en voyant véritablement, et je crois que d'ailleurs qu'il y a eu à Vézelay, il n'y a pas très très longtemps, une cloche au sol qui a dû être remise ensuite à sa place, je ne sais plus ce qui s'est passé.
Et évidemment, Chapital va trouver des candidats. Et c'est des jeunes gens. Il y en a un qui arrive avec sa monte aux cieux, sa moto, la monte aux cieux. Ça m'a rappelé certains films de Cocteau, d'ailleurs. Il arrive comme un fou dans un brouillard de poussière et d'odeur d'essence. Il arrive comme ça, beau jeune homme, comme ça, sur sa monte aux cieux, une moto rutilante et puissante. Oui. Des côtés, il y a un imaginaire à la Cocteau chez vous, parfois.
C'est à la fois aussi une vieille bécane. Là aussi, on est dans quelque chose qui est à la fois de la fugue, une forme sans doute un peu de désespoir, mais qui va devenir autre chose. Ce jeune homme, en partant sur sa moto, parce qu'il répond à l'annonce de Chapital, trouve une sorte d'explosion de joie. Il est seul sur sa moto, il est libre, il n'a de compte à rendre à personne, même pas à sa compagne qu'il a laissée, d'ailleurs, parce qu'il est parti du nord de la France. Il répond donc à l'annonce de Chapital, qui cherche des choristes pour remplacer les cloches d'église hors d'usage. Et il est fou de bonheur. Et cette espèce de joie là, d'un homme seul, quand ça prend la poitrine, j'ai envie de raconter ça. J'ai envie. Cette espèce de joie pratiquement libertaire, vous savez, parce que j'ai voulu que ce roman ait des accents libertaires, que ce soit un roman aussi frondeur, que ce soit un roman à la fois plein, plein de, je l'espère, en tout cas de tendresse, mais aussi qui ait une forme de, comment dire, de bras d'honneur quand même à certaines conventions.
Et justement, ce garçon, il fuit un univers familial et social très convenu. Les fils de pharmaciens, la pharmacie ne l'intéresse pas. C'est cela. Il y a quelque chose de très gidien, c'est un peu les nourritures terrestres.
C'est un autre personnage, ça, c'est Fifi.
Ah oui.
qui, parce qu'il y a deux jeunes gens qui vont répondre donc à cette
annonce.
Et celui
qui a la moto.
Ils se retrouvent tous, c'est-à-dire ces deux jeunes gens, Chapital, dans cette auberge qui s'appelle les Vents Coudés, qui est donc tenue par Magalu. Et sa fille Isabelle. Voilà.
Alors Magalu, c'est un personnage aussi haut en couleur. D'abord parce qu'il met la main à la pâte, mais à la pâte alimentaire, lui, il fait à manger.
Oui.
Il n'est peut-être pas très doué sur le langage, mais il a aussi, sous son chapeau, quelque chose d'extraordinairement magique, Jean-Pierre Canet.
Alors là, je ne sais pas si on va le raconter. Il ne
faut pas le dire.
Je crois qu'on ne va pas le dire. Ce que je veux simplement...
Mais la scène, pardonnez-moi, elle m'a tellement marqué, touché, ému. Je n'en dis pas plus alors.
Oui, oui. Ce que je veux simplement dire à nos amis auditeurs, c'est que je souhaitais... Vous parliez du ciel tout à l'heure. Je souhaitais un peu casser le plafond. Casser le plafond, je dis bien. C'est-à-dire que je souhaitais que ce... Je voulais éviter un roman un peu style Terres humaines, vous savez, chez Plon. J'avais envie aussi qu'il y ait quelque chose de baroque, qu'il y ait quelque chose de fou, de foncièrement fougueux dans l'histoire que je raconte, que je narre. Et donc, ce personnage de Magalu a une... certaines singularités, on peut le dire pour le moins.
Oui. En plus, la fille Isabelle en rajoute un peu en disant, elle évoque un certain passé de son père lié à l'Ouzbékistan. Même le lecteur, on est complètement perdu.
On est un petit peu
qu'a-t-il
perdu.
Qu'a-t-il pu faire voilà. Jusque là-bas ? Mais le lointain, l'exil, les voyages sont omniprésents dans le roman.
Vous savez, moi j'ai un petit peu, pas mal même vécu dans la capitale. C'est-à-dire Paris, et c'est souvent à la campagne, en me promenant, parce que je suis un grand marcheur, que j'ai rencontré des singularités extraordinaires, des gens auxquels on ne s'attend pas. Le baroque, la flamboyance est au bout du chemin, il suffit d'ouvrir les yeux et d'aller vers les gens. Et les destins de personnalité. Je pense aux Vézeliens, là. Moi, je pense à des gens que j'ai croisés, avec lesquels j'ai parlé. C'est extraordinaire. Je repense à ce monsieur que je voyais en train de travailler sa vigne. Je m'arrête, on discute, et puis il me raconte qu'il a couru le marathon de New York. Et ce n'est que ça. Et la vie, si on fait attention, ce n'est que ça. Les gens les plus modestes, les plus simples, ont des trésors d'histoire à nous narrer.
Oui, être attentif à l'autre et prendre le temps d'écouter l'autre.
Absolument, absolument. Dans sa modestie, dans ce qu'il peut donner de meilleur.
Jean-Pierre Canet, dernière petite pause musicale et ensuite viendra le moment de conclure. Je rappelle le titre de votre roman, « Des noces rêvées ne meurent pas », roman sorti au printemps de cette année 2017. Ça peut être un très beau cadeau de Noël à glisser sous le sapin. C'est un court roman, Jean-Pierre Canet.
Oui.
Ou alors une très longue nouvelle.
Non, c'est un court roman. Non, c'est un roman.
On se retrouve dans une poignée de minutes avec notre invité.
Fan des 60s, petite baby doll. Comme tu dansais bien le rock and roll. Ex-fan des 60s, où sont tes années folles? Que sont devenues toutes tes idoles? Où est l'ombre des shadows? Des birds, des doors, des animals, des moods, des blues. Séparés, McCartney, George Harrison,
et Ringo Starr et John Lennon. Ex-femme des 60s, petite baby doll, comme tu dansais bien le rock and roll. Ex-femme des 60s, où sont tes années folles? Que sont devenues toutes tes idoles?
Votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
On est sur la fin de l'émission avec notre invité Jean-Pierre Canet, romancier, poète et dramaturge. Sur l'inspiration, et c'est valable, pour tous les genres littéraires et musical ou artistique. Jean-Pierre Canet, dans un reportage à TV Tour, vous avez déclaré, je vous cite, « L'inspiration est une tarte à la crème totale. Les gens inspirés ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est qu'en travaillant à force de brouillon, on puisse être dans une proposition littéraire cohérente. Cohérente parce qu'elle ressemble à soi, parce qu'on en est satisfait. Cohérent, c'est intime. » Puis-je vous demander de développer un peu ce point de vue, notamment l'inspiration, Jean-Pierre Canet, qui ne manque pas chez vous?
Alors, je vous remercie de me poser cette question parce que c'est une question que je me pose à moi-même régulièrement. Je sais parfaitement ce que j'ai dit à l'époque et c'était de ma part quelque peu systématique. Je dois dire que j'ai révisé ce point de vue. Bien sûr que autour de la notion d'inspiration, on sent bien le côté un peu fleur bleue qui, moi, me gêne, le côté mièvre, le côté poète inspiré. Il s'agit d'abord de bosser, de travailler. Ceci étant, moi, quand je fais mon chemin de ronde tous les jours autour de Vézelay, qu'est-ce que je cherche, au fond? Qu'est-ce que je vais regarder au travers les branches en jetant mon regard le plus loin possible? C'est quoi les horizons que je cherche? C'est quoi les perspectives que je cherche dans le travail en cours? Eh bien, c'est de l'inspiration. J'ai eu la chance de rencontrer un poète qui n'est plus là aujourd'hui, qui s'appelle Eugène Guilevic, et d'avoir passé du temps chez lui, rue Claude Bernard à Paris. Et Eugène parlait de l'inspiration, il n'avait pas peur. Moi, je pense que c'est une précaution que je prenais, je dirais, à l'époque de jeune auteur. Je ne l'apprends plus. J'ai besoin d'être visionnaire de moi-même. Autrement, qu'est-ce qui se passe? Autrement, on est un dactylographe. C'est pas intéressant d'être un dactylographe. J'ai besoin de vision, j'ai besoin de jeter comme ça. C'est encore ce que j'ai fait cette nuit, parce que je travaille la nuit et je travaille sur un roman. J'essaie vraiment de trouver des choses qui sont Parce que visionnaire, inspiration, ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer de se faire se rencontrer, de faire se marier, de faire une sorte de fusion entre ses urgences, ses préoccupations et, comment dire, le juste contenu d'un texte qui est en train de se faire. C'est ça l'inspiration. C'est un sédiment, c'est plus qu'un sédiment. C'est autour de l'inspiration ou de la vision qu'on va écrire, travailler. Bien sûr, il faut faire venir les petits ouvriers après de l'écriture. Il faut faire venir les artisans. Mais faut-il avoir quelque chose à dire? L'inspiration, c'est l'idée. C'est pour ça que je disais que c'est de la tarte à la crème à tort. Et l'idée ne fait pas le texte. Mais sans idée, il n'y a pas de texte.
Merci Jean-Pierre Canet d'avoir été ce soir devant les micros de Wagon Livre sur Radion. Je rappelle donc votre dernier roman, Des noces rêvées ne meurent pas, aux éditions La Renverse, jeune maison d'édition. Le livre se commande, mais il y en a dans Lyon des exemplaires. Chez le libraire de Vézelay, Laurent Equet, que nous saluons, vraisemblablement aussi Clamcy. À la librairie L'Autre Monde à Avallon, il y en a aussi à Clamcy, la librairie Le Millefeuille. Absolument. Et autrement, vous le commandez, vous l'exigez en protestant énergiquement. Et puis on rappellera aussi le recueil de nouvelles de Jean-Pierre Canet, prix Bocage de la Nouvelle 2014, Le Grand Labeur, aux éditions Rhubarbe. Merci encore Jean-Pierre Canet.
Merci à vous.
La semaine prochaine, mercredi 13 décembre, toujours à 21h sur Radion, nous serons avec Bernard Lecomte pour l'histoire du communisme pour les nuls aux éditions First. Vous le savez bien, Jean-Pierre, il y a 100 ans, à Pétrograd, la révolution d'octobre donnait naissance à un régime politique inédit qui allait changer le monde. Eh bien, nous essaierons modestement avec Bernard Lecomte, ancien journaliste, ancien correspondant de l'Express. À Moscou, il a connu lui-même l'époque de la chute du mur de Berlin. Il a vécu l'événement en direct. Et bien, nous retracerons avec Bernard Lecomte cette incroyable épopée d'une idéologie politique qui bouleversa le XXe siècle. Merci d'avoir été avec nous. Très bonne fin de soirée à toutes et à tous. Et puis, je voudrais remercier Christiane et Dominique Barbe de l'hôtel Avallon-Vombat qui nous prêtent toujours leur salon, salle de réunion, qui de temps en temps devient donc studio annexe de Radion ici à Avallon. Donc merci à Christiane et à Dominique. Merci à notre invité Jean-Pierre Canet. Au revoir et à la semaine prochaine.